Bonjour Eric Bigeot.
Salut Jeannot.
Alors tu demandes de rigueur parce qu'il se trouve que dans nos aventures respectives, on a eu déjà l'occasion de se croiser, comme on s'est croisé samedi d'ailleurs.
Et effectivement, pour assister à cette belle victoire du Stade Montois Foot.
Fait plaisir le retour, la victoire côté jaune et noir.
En plus, un très très beau match.
Ouais, c'était sympa. Vachement bien. Ouais. Et tu y vas régulièrement voir le football?
Alors, oui, j'y vais très régulièrement. Moi, je suis un footeux, un peu comme toi, je crois. Ouais. Toi, un autre niveau que moi, mais bon, effectivement... Je suis footeux.
Alors on est là pour causer football un petit peu, mais causer aussi de cette exposition qui va débuter demain du côté de la médiathèque Philippe Labeyrie, le 250e anniversaire du Grand Orient de France. Je me permets de reprendre les mots qui étaient sur le journal Sud-Ouest vendredi, Eric. Nous sommes non pas une organisation secrète, mais plutôt discrète. La franc-maçonnerie, le Grand Orient de France, et tout ce côté un petit peu, c'est vrai, assez fascinant pour la franc-maçonnerie. Il y a toujours ce petit côté un peu comme ça, hein ?
Absolument. Ouais. Comme toute société un peu effectivement discrète et non pas secrète, j'insiste sur ce terme, effectivement on suscite des fantasmes. Ouais. Fantasmes qui ne sont pas nouveaux, hein, qui sont liés à l'histoire. Condamnation de l'Église, condamnation pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a pourchassé les francs-maçons. Une des premières lois de Pétain, c'était une loi anti-maçonnique, effectivement, avec la suppression de l'accès à la fonction publique et aux professions libérales, et puis également la confiscation des temples. Donc effectivement, on est discret, mais il y a une évolution dans la maçonnerie en général, mais en particulier au Grand Orient de France. Et après, je peux expliquer un peu la différence, ce qu'est le Grand Orient par rapport au mouvement maçonnique en général. C'est qu'aujourd'hui, on sort de nos temples, les lieux où on se réunit, pour effectivement montrer les travaux que nous faisons et pour qu'ils aident à chacun à se faire des idées sur des sujets très précis qui agitent parfois la société.
Mmh.
Voilà. Donc, exposition veut dire, évidemment, on s'expose de façon discrète, mais on s'expose à partir de demain. Donc à la médiathèque Philippe Labeyrie, en collaboration avec les services culturels de l'Aglo et la médiathèque, bien évidemment, qui nous a fort gentiment accueillis pour cette exposition, qui va avoir lieu donc du 16 au 27 janvier. Le vernissage, comme tu le disais tout à l'heure, demain à 17h, tout le monde est bien sûr bienvenu à ce vernissage. Ce vernissage sera suivi d'une petite visite rapide de l'expo. Puisque savoir que l'expo est composée de 25 panneaux qui expliquent l'histoire du Grand Orient de France, donc sur 250 ans, et puis avec aussi une exposition d'objets. Alors tu parlais tout à l'heure secrets, fantasmes, etc. Mmh. Là, il y a des objets,
ouais.
Donc, effectivement, mais qui seront expliqués, et ça peut être intéressant pour beaucoup de gens. Ce vernissage sera suivi d'un film. Alors d'abord, une petite prise de parole d'un historien local qui a beaucoup écrit sur la franc-maçonnerie dans les Landes, que tu connais d'ailleurs. Alain Pécassin, qui a été ton prof, je crois.
Oui, sur mes années toulousaines, effectivement.
C'est ça, qui était prof d'histoire G, qui avait beaucoup écrit, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La franc-maçonnerie dans les Landes » il y a quelques années, et qui raconte l'histoire du Grand Orient de France dans les Landes, en général, et à Mont-de-Marsan en particulier.
Oui, parce que Loge Montois, tu vas y venir, mais Loge Montois a du devoir social, tu veux nous en dire quelques mots aussi, poursuit-on ta présentation avec.
D'accord. Donc après, on va diffuser un film. À l'auditorium de la médiathèque. Le film s'appelle La Séparation. Alors, peut-être certains des auditeurs l'ont déjà vu. C'est un film qui a été produit par FR3 il y a quelques années, avec un casting très sympa, avec Pierre Arditi, Michael Lonsdal, Claude Riche, Jean-Claude Drouet, j'en passe.
Pas mal.
C'est pas mal. Et c'est un film d'1h20 qui raconte en fait le contexte autour des débats parlementaires sur la loi de la séparation, sur la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905 en France. Alors, petit détail intéressant, c'est que le décor de ce film, c'est vraiment l'hémicycle du Palais Bourbon. C'est là où a été tourné le film. Donc c'est tout ce débat parlementaire qui a amené à cette loi de 1905 qui existe encore aujourd'hui et qui suscite parfois effectivement des débats. On parle parfois de laïcité positive, de laïcité comme ci, de laïcité comme ça. Pour le franc-maçon du Grand Orient de France, il n'y a que la laïcité, avec la définition de Victor Hugo, l'Église chez elle, l'Église en général évidemment, et l'État chez lui. Voilà.
En plus, c'est une thématique tout à fait d'actualité. Hein, tout ça,
voilà,
c'est quelque chose qui
revient
régulièrement dans les débats.
Absolument. Il y a quelques semaines, on a fait venir un ancien grand maître du Grand Orient de France, Gilbert Abergel, qui a fait une conférence. C'était à la salle Lamarckando, et qui a expliqué pourquoi est-on franc-maçon, quel est l'avenir de la franc-maçonnerie, pourquoi devient-on franc-maçon aujourd'hui. Effectivement. Combattre quelques fantasmes, quelques idées reçues, et puis en même temps continuer à militer pour des idées et des lois que l'on croit acquises mais qui sont régulièrement remises en cause, ça fait partie du travail. Mmh. Et dans le même ordre d'idée, bon là je t'annonce un scoop, mais il faut savoir que le 1er juin, samedi 1er juin, alors ça sera les finales de la Coupe des Landes de basket.
C'est ce que j'étais en train de me dire.
Avant de Marsan aux arènes. Ouais. Alors on n'a pas choisi la date, on fait venir une conférencière très intéressante qui s'appelle Florence Bergeau-Blaquer, qui a écrit un livre qui s'appelle Frérisme sur les frères musulmans. Et c'est une anthropologue qui est chercheuse au CNRS et qui a récemment reçu le prix Science et laïcité, un prix qui est décerné tous les ans. Et donc on l'a fait venir pour une conférence justement sur la laïcité. Mmh. Ça aura lieu donc le 1er juin au château de Nahuc, précisément. Okay. Voilà, donc ça c'est le petit scoop. Ouais. Donc voilà, la laïcité c'est effectivement quelque chose qui est très 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 présent, puisque dans notre constitution on dit que nous attachons une importance particulière à la laïcité. Mmh. Voilà.
Un petit peu, Eric, de cette histoire et de la loge montoise dans le devoir social, 110 ans, je crois, c'est ça ?
Exactement, hein ? Exactement. Ouais. Alors, la loge, il y a une seule loge du Grand Orient de France ici à Mont-de-Marsan. Par exemple, à Dax, il y en a deux. Mm-hmm. À Cabreton, il y en a deux. Ici à Mont-de-Marsan, il n'y en a qu'une. Notre loge est mixte. Donc, elle a 110 ans. Elle est l'émanation à l'origine d'une loge qui s'appelait la Concorde, Grande Loge de France, qui ensuite s'est divisée en deux branches. Une branche toujours qui existe de la Grande Loge, qui est un petit peu plus vieille que nous, et les 110 ans donc du devoir social ici à Mont-de-Marsan. Mmh. Donc il y a plusieurs obédiences. Le Grand Orient est une obédience. Une obédience, c'est une réunion de loges. Il faut savoir qu'à peu près le Grand Orient aujourd'hui, c'est 1400 loges, un petit peu moins de 1400 loges en tout dans le monde, dont un peu plus de 1200 en France. Mmh. Et ça représente à peu près 53 000 membres, dont un peu plus de 6 000 femmes. Pourquoi pas beaucoup de femmes, puisque le Grand Orient accepte la mixité, on va dire, depuis seulement 2010.
D'accord.
Voilà, donc c'est pour ça, ça explique aussi la création parfois d'une deuxième loge dans certaines villes, puisque certaines loges n'ont pas voulu s'orienter vers la mixité, et à côté de ça, donc, il y a eu une création. Donc vous retrouvez dans certaines villes des loges qui sont non mixtes et des loges mixtes. À Mont-de-Marsan, une seule loge, la mixité, qui est très bien vécue, très bien acceptée, mmh. mais effectivement pas beaucoup pour l'instant de sœurs, puisqu'on s'appelle entre nous frères et sœurs.
Et tu as une dénomination particulière, toi,
alors, comme toute association, comme toute institution, nous avons notre langage, qui est souvent inspiré de l'Église. Nous ne sommes pas une église, mais qui est inspirée de l'église et aussi de l'armée. Donc on retrouve des termes comme ça un petit peu anciens. Alors moi, j'ai une dénomination qui va évidemment faire probablement sourire, peut-être même rire certains des auditeurs. Moi, dans ma loge, on m'appelle Vénérable Maître. D'accord. Voilà, c'est très pompeux, mais on doit s'adresser, quand on est en tenue, c'est-à-dire effectivement quand on travaille ensemble, on doit s'adresser à moi en disant Vénérable Maître. C'est très flatteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fonction, je suis élu, donc toutes les fonctions du Grand Orient de France sont électives. Donc on est élu, je suis élu pour un certain temps, et il faut savoir que quand j'aurai fini mon temps, eh bien, je vais redescendre à la position la plus basse de la loge, c'est-à-dire je vais devenir le portier, celui qui ouvre et qui ferme les portes. D'accord. Donc on ne m'appellera plus Vénérable Maître, on m'appellera le frère couvreur. Voilà, je vais couvrir la loge, je vais vérifier. Voilà. Donc tu vois, c'est toujours cette notion, effectivement, que aussi l'humilité doit rester une des qualités premières du franc-maçon. C'est-à-dire mm-hmm. que la vérité n'est jamais acquise. Le travail sur soi, le travail pour les autres est toujours quelque chose d'actualité, de permanent.
Et puis il y a toujours ce côté cérémonial aussi autour des rendez-vous de franc-maçon.
Absolument. Ouais. Alors il faut savoir qu'on fait deux tenues par mois. Alors, nos réunions s'appellent des tenues. Ouais. On fait deux tenues par mois. Et effectivement, il y a un rituel bien particulier. Alors, il y a différents rituels qui existent à travers la franc-maçonnerie. Le Grand Orient de France, la loge du devoir social travaille pour rite français. Il y a des rites écossais. Ça ne veut pas dire qu'on boit plus de whisky, mais il y a les rites écossais, il y a les rites français. Mmh. Le rite écossais ancien accepté. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Nous, on travaille au rite français. Donc, il y a un rituel bien précis à respecter, qui fait qu'en fait, on se met en condition pour travailler. Travailler, ça veut dire travailler autour des symboles maçonniques, autour des sujets d'actualité qui nous intéressent. Mais on a tout ce rituel-là qui est très, très important, qui permet effectivement de se mettre en condition pour pouvoir travailler ensemble. Mmh. Donc, on a des dénominations, on a un langage, on a des choses comme ça. Donc, et puis, il y a des langages qui sont aussi passés dans le langage visuel, commun. Quand on travaille, on dit qu'on planche. Voilà, on est en train de plancher.
C'est d'origine franc-maçonnique.
On aime bien le croire et on aime bien s'en persuader, mais bon, je suis pas sûr à 100%. Okay. Quand on vote avec un système de boules blanches et de boules noires, et effectivement, si les boules noires l'emportent, on dit qu'on est black-boulé, tout simplement. Ah, okay. Voilà, donc le fameux... Mmh. Voilà. Je suis Voilà, je te garantis pas, hein, ouais, l'origine à 100%, mais effectivement, c'est des termes. Mmh. Alors, d'après plein d'autres termes comme ça, et des grades. Moi, je suis vénérable maître, comme je te disais, mais j'ai autour de moi des gens, ce qu'on appelle un collège d'officiers, des gens, on est 10 précisément, qui travaillons avec des fonctions bien précises. Mmh. Voilà.
Donc, 2 tenues par mois pour l'âge du devoir social à Mont-de-Marsan,
ouais,
qui sont, comme tu l'as dit, sur ce côté cérémonial, et puis les thèmes. Alors, comment ça se passe pour. Comment on décide un peu de ce dont on va parler ou des,
Alors, il y a des choses qui arrivent par notre institution qui est le Grand Orient de France. C'est ce qu'on appelle les questions à l'étude des loges. Donc ces questions à l'étude des loges sont votées par l'ensemble des loges tous les ans dans une grande messe qui s'appelle le convent où toutes les loges sont représentées. On fait une énorme tenue gigantesque où il y a à peu près 2000 personnes pendant 4 jours. C'est très sympa. C'est un peu fatigant, mais c'est très sympa. Et donc, ces questions à l'étude des loges viennent vers les loges. Des commissions sont faites. On présente un travail et ensuite ce travail est compilé et tout à fait accessible à tout le monde. Ensuite, il y a des questions, on travaille beaucoup sur des questions symboliques et on travaille en même temps sur des questions sociétales. Ces questions sont décidées à l'intérieur des loges. Les frères proposent du travail et il faut savoir, tu parlais du rituel tout à l'heure, que ce qui est très important en loge, c'est quand un frère ou une sœur va présenter un travail, il ne sera jamais interrompu. Donc il va présenter son travail, toujours avec ce côté rituelique et symbolique. Il va présenter son travail à la fin de la présentation, il le présente oralement. À la fin de son travail, on va faire ce qu'on appelle circuler la parole. Chacun pourra s'exprimer sur ce travail pour l'enrichir et ne sera non plus jamais interrompu. Donc il y a un système de prise de parole qui est très précis. On n'est pas au café du commerce. Mmh. Chacun prend la parole, n'est jamais interrompu et... Mais par contre, effectivement, tous les frères et les sœurs ne peuvent pas prendre la parole, puisque c'est aussi, comme je te le disais tout à l'heure, une société initiatique. Donc, il faut être initié pour rentrer. Et on peut en parler après, si tu veux.
Ouais.
Et ensuite, il y a différents grades à respecter, différents grades de progression à l'intérieur de la loge. Tout le monde passe par exactement la même chose. Et effectivement, on n'a pas tout de suite accès à la parole. C'est-à-dire, mmh, quand on rentre dans une loge, on est initié. Et on devient ce qu'on appelle apprenti. Et pendant quelques temps, l'apprenti, ben effectivement, il va écouter. C'est le silence. Et le silence, c'est souvent très, très formateur.
Ah oui. En radio, ça fait un petit peu bizarre, mais de façon générale, c'est vrai. Puis l'écoute aussi.
Absolument.
L'importance de l'écoute.
Ah, mais t'as complètement raison. Ouais. T'as complètement raison. Et souvent, on se rend compte, quand on est apprenti, on se dit, tiens, ben moi sur tel travail, j'aurais bien dit ça, j'aurais bien voulu dire ça, je voulais dire ça. Puis on en parle après, parce qu'on peut parler aussi de l'après-tenue, parce qu'il y a un petit cérémonial aussi après la tenue. Mm-hmm. Et puis en fait, on se rend compte que quand on a accès à la parole, quand on a passé le grade supérieur, ben effectivement, c'est pas si facile de prendre la parole. Parce qu'en fait, on n'a rien pour rebondir, c'est-à-dire il faut structurer sa pensée, pouvoir l'exprimer clairement, qu'elle soit audible pour tout le monde. Et effectivement, c'est pas si facile que ça, parce que comme je parlais du café du commerce, j'ai rien contre le café du commerce, hein, j'y passe aussi de temps en temps un peu de temps. Mais effectivement, quand on est dans un groupe d'amis de discussion, bah, effectivement, on est parfois interrompu, on est parfois même amené à interrompre quelqu'un, et cette personne peut rebondir, etc. On n'arrive jamais vraiment à convaincre quelqu'un dans ce genre de discussion.
Bien sûr, ouais.
C'est quand même difficile. Là. Il ne s'agit pas de convaincre, mais d'enrichir le travail et d'apporter sa pierre, ce qu'on appelle apporter sa pierre, polir sa pierre. On part d'une pierre brute et on va essayer d'aller vers une pierre la plus polie possible.
Et voilà. Ce décor est en complète opposition avec, malheureusement, un petit peu de l'univers médiatique, là, que ce soit télé et même radio parfois, alors, où les paroles se coupent, se découpent, ouais, se surcoupent. Enfin, vous êtes vraiment à l'opposé de ça.
Voilà, il faut savoir que si tu veux la parole en loge, tu vas la demander à quelqu'un qui va me la demander. Et moi, ensuite, je vais dire oui, ok, c'est une triangulation de prise de parole. Tout ça fait pour prendre un tout petit peu de temps et pour bien être sûr de ce qu'on va dire, enfin être sûr, structurer son discours pour qu'il soit bien. Voilà. Alors donc c'est effectivement quelque chose qui n'a rien à voir, qui n'existe pas, à mon sens, à ma connaissance, dans d'autres institutions.
Mmh. Tu as parlé tout à l'heure, Eric, de rite initiatique, sans vouloir forcément dévoiler tous les secrets, ouais, peut-être, ou ta discrétion. Vas-y, dis-nous quel point.
Alors, aujourd'hui, avec tout Internet, etc., il faut savoir que, par exemple, le Grand Orient de France a une chaîne YouTube. Hein. Ouais. Il y a un site Internet, GODF, tout le monde pour trouver des informations. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont fuité à travers sur Internet. Aujourd'hui, c'est quand même relativement facile, par exemple, d'assister à une cérémonie d'initiation. Mais ce qu'il faut savoir, et là tu parlais de fantasmes tout à l'heure, c'est qu'on compare parfois la franc-maçonnerie, le Grand Orient de France, une de ses obédiences, l'obédience principale de la franc-maçonnerie en France, à une secte. C'est souvent quelque chose que, voilà, c'est quoi la franc-maçonnerie? Quand je dis je suis franc-maçon, parce que moi je peux je peux me découvrir, mais je n'ai pas le droit de découvrir un autre frère, de dévoiler un autre frère ou une autre sœur. Mmh. C'est vrai que souvent on me dit, bah, à la franc-maçonnerie, qu'est-ce que c'est? Et puis c'est une secte, voilà, vous êtes entre vous, voilà, complot judéo-maçonnique, enfin bon, toutes ces choses. La grande différence, c'est que chez nous, c'est difficile d'y rentrer. Alors c'est difficile, c'est pas difficile, le terme, c'est compliqué, il faut montrer patte blanche. Une secte, c'est assez facile d'y rentrer en règle générale. Hein. Chez nous, c'est très facile d'en sortir, il suffit d'un petit courrier. Sortir d'une secte, c'est parfois un petit peu compliqué. Et puis chez nous, ça coûte quand même beaucoup moins cher, parce qu'en règle générale, dans une secte, la première chose qu'on te fait, c'est qu'on te prend ton oseille. Mmh. Donc bah voilà, chez nous, tout le monde paye exactement la même chose, les mêmes cotisations, ce qu'on appelle les capitations, les mêmes capitations. Voilà. Après, dans le rite, bah, effectivement, sans trop dévoiler de secrets, si tu veux, on rappelle des choses essentielles en maçonnerie. On a une position particulière quand on prend la parole, quand on s'exprime en tenue. Et puis aussi, on a ce qu'on appelle des décors. Alors c'est toujours pareil, vu de l'extérieur, ça fait toujours un petit peu sourire, ça fait peut-être un peu cours de récréation de temps en temps. Mais effectivement, on a des décors. Alors on a un tablier, évidemment, le fameux tablier de maçon. On a tous des gants blancs, comme Mickey. Mais alors Mickey, ça s'explique, puisque Walt Disney était franc-maçon et avait mis des gants à Mickey juste pour faire un petit clin d'œil à ses frangins. On a une tenue particulière, une place aussi qui peut être particulière en fonction de sa position dans la loge. Et puis effectivement, tout un... Alors, tu voulais surtout me parler du rituel initiatique. Le rituel initiatique, avant d'y arriver, on peut être coopté pour rentrer en franc-maçonnerie, mais on peut également tout simplement en faire la demande. À partir de là, la procédure va être toujours la même, identique pour chacun, jusqu'au moment où on va être initié franc-maçon, où on va pompeusement dire recevoir la lumière. Mmh. D'abord, c'est des enquêtes, trois enquêtes qui sont faites, pour connaître ce qu'on va appeler à ce moment-là le profane, celui qui n'est pas encore initié. C'est pas le sang de bourbe, attention, on n'est pas dans Harry Potter, hein, mais c'est le profane. Et trois enquêtes. Ensuite, quelque chose qui fait aussi parfois sourire, c'est ce qu'on appelle une cérémonie de passage sous le bandeau, c'est-à-dire que le profane vient dans notre atelier. Avant de venir, on le laisse mariner un tout petit peu, évidemment, parce que sinon c'est pas rigolo. On lit les enquêtes sans dire le nom des enquêteurs pour que l'ensemble de l'atelier connaisse le profane qui se présente. Ensuite, ce profane est introduit dans le temple, il est introduit les yeux bandés, d'où effectivement la cérémonie sous le bandeau. Et là, il va subir entre guillemets une batterie de questions qui peuvent aller de choses très très simples ou de choses beaucoup plus philosophiques, selon aussi en se basant sur les enquêtes. Mmh. Une fois que c'est fait, il repart chez lui tranquillement, se demandant bien ce qu'il est venu faire ici, dans cet endroit de fou, puisqu'il n'a pas vu,
il n'a rien vu de ce qui se passe.
Il n'a rien vu, il n'a rien vu. Le bandeau est mis dès l'entrée, et il repart, on lui enlève le bandeau, pas à sa voiture, mais à la porte de sortie. Et à partir de là, il y a un vote qui est fait, je te parlais tout à l'heure de boule blanche et de boule noire, il y a un vote qui est effectué, et à l'ensemble de la loge se décide ou non d'initier ce profane. Donc il faut avoir les deux tiers de boule blanche pour être accepté. Donc à ce moment-là, on reconvoque cette personne, ce profane. Il rentre toujours les yeux bandés. Là, on le laisse encore mariner un petit peu plus dans ce qu'on appelle un cabinet de réflexion où il y a plein d'objets, plein de choses un peu bizarres, etc. Mmh. C'est un tout petit endroit tout noir avec plein d'objets, etc. Et ensuite, on va procéder donc à son initiation. On va lui faire subir un certain nombre d'épreuves. C'est pas du bizutage, hein. Il y a un respect complet évidemment de la personne, avant de faire ce qu'on appelle de lui donner la lumière. Donc il va découvrir l'ensemble du temple à ce moment-là, tous les frères et sœurs qui sont autour de lui, et il devient à ce moment-là un frère ou sœur de notre atelier. Voilà. Donc il faut savoir pourquoi on s'appelle frère et sœur, parce qu'on subit, on vit, on a tous vécu exactement la même initiation. Que ce soit un frère d'un temple, d'une loge de Lille, de Marseille, de Pointe-à-Pitre, peu importe, on vit tous exactement la même chose, la même initiation. Et c'est vrai que c'est un moment très fort de la vie de la loge, d'accueillir un nouveau frère, une nouvelle sœur. Et puis c'est un moment pour le profane qui va être initié, effectivement, qui est empreint de beaucoup d'émotions et beaucoup de force, si le rituel est bien appliqué, bien sûr.
Mmh. Et tu parlais aussi, tant qu'on est dans ce côté-là, tu parlais de l'après-tenue alors aussi.
Qu'est-ce qui se passe là sur l'après-tenue? Alors, c'est ce qu'on appelle les agapes. Ah bah voilà, agapé, c'est transmettre l'amour. Mmh. Bah nous, on le transmet à travers un repas, effectivement. Donc toutes les tenues sont suivies d'un repas. Il faut savoir qu'à l'intérieur de notre temple, nous avons ce qu'on appelle une salle humide. La salle humide, c'est le restaurant. Mais il faut savoir que, je te parlais tout à l'heure des apprentis, ce sont les apprentis qui font à manger et qui doivent servir les autres frères et les autres sœurs qui sont assis. Donc il y a un banquet, hein, tout simplement, des agapes. Et là, effectivement, la parole est complètement libre. Alors là, on s'interrompt de temps en temps, parce que ça part souvent de sujets qui ont été débattus au cours de la tenue. Et puis, voilà. Alors, on s'interrompt de temps en temps. Mais il y a toujours ce respect quand même. Voilà. Mais il y a ce côté aussi très rituelique, effectivement, où les apprentis ont une charge de travail pour rappeler l'humilité. Et on a assisté, par exemple, à des grands médecins, des grands directeurs d'entreprise qui servaient à manger, parfois... à l'ouvrier, à l'agriculteur, etc. du coin. Voilà, il faut savoir que toutes les couches sociales sont représentées dans notre atelier, au Grand Orient de France en général.
Alors la laïcité, on l'a évoqué, les autres thématiques principales, sur quoi vous voulez travailler
aujourd'hui, Eric ? On a deux grands chantiers. Bon, la laïcité, c'est un sujet dont qui nous préoccupe plus en ce moment, parce qu'effectivement, il y a des attaques sur ce sujet. Aujourd'hui aussi, on travaille beaucoup sur la fin de vie. Puisqu'il y a des lois qui vont arriver à partir de février. Il faut savoir que notre nouveau grand maître qui s'appelle Guillaume Trichard a reçu le président de la République, Emmanuel Macron, au siège du Grand Orient de France à Paris. Et ils ont parlé, entre autres, effectivement, de ces lois qui vont arriver. Je dis ces lois parce qu'il y aura deux lois. Une loi sur les soins palliatifs et une loi sur la fin de vie. C'est un sujet qui intéresse énormément les gens. Puisqu'il y a des lois qui sont faites en Belgique ou en Suisse, par exemple, qui autorisent une fin de vie apaisée, on va dire. Je ne parle pas d'euthanasie, mais une fin de vie apaisée. Mmh. Et pour l'instant, en France, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, ça c'est voilà, on parle aussi du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, excusez-moi. On parle de ces grands sujets sociétaux qui effectivement intéressent les gens. On en débat, on compile nos travaux. Ces travaux sont accessibles par différents médias et effectivement, on essaie de les relayer par les acteurs politiques pour effectivement. Mais c'est pas force de loi quoi. C'est un reflet. Ouais. Ça se veut un reflet de la société.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Avec dans le monde politique, ça évoque souvent parfois avec quelques secondes degrés. Ah ben lui, il y a ce côté-là. Il y a pas mal de francs-maçons aussi en politique aussi forcément.
Alors, voilà, il y en a pas autant que sous la Troisième République. Ouais. Je te parlais de la loi de 1905. Ouais. Le film La Séparation montre clairement que le Parlement était au moins au tiers occupé par des francs-maçons. Mmh. On a moins cette importance-là. Comme je te le disais tout à l'heure, moi je me dévoile, mais je ne dévoile pas. Je n'ai pas le droit. Ça fait partie du secret maçonnique. En dehors, avec l'initiation. La force de l'initiation et le fait de rester secret, je n'ai pas le droit de dévoiler, de dire un tel. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, là, on retombe effectivement dans les fantasmes. Alors, je vais te raconter une petite anecdote. On a un cahier de loge depuis la création de la loge, depuis 1904, où tous les frères qui ont été initiés ou ont été affiliés au devoir social sont répertoriés. Avec leur année de naissance, leur date de naissance, les grades qu'ils ont occupés, les fonctions qu'ils ont éventuellement occupées. Et puis un jour, je parlais à un ancien vénérable maître de notre atelier et qui me racontait l'histoire de son papa. Et son papa disait, bon, celui-là, à Mont-de-Marsan, hein, il disait, oh celui-là, je le connais, il doit être franc-maçon. Oh celui-là, il doit être franc-maçon, etc. Et il dit, quand j'ai eu le cahier de loge entre mes mains, j'ai regardé, effectivement, ils étaient francs-maçons. Mmh. Donc voilà. Bon, il y a des grands fantasmes au niveau politique. Il y a des hommes politiques qui ont été francs-maçons. On a dit souvent, par exemple, François Mitterrand n'était pas franc-maçon, par exemple. Mais il y a moins aujourd'hui, moins d'influence politique que sous la Troisième République, ça c'est évident.
Et si on a aiguisé votre curiosité à aller un petit peu plus dans ce sujet et découvrir dans cette exposition, à partir de ce mardi 16 janvier, c'est à partir de 17h hein, pour le rendez-vous fixé, Eric.
Ou alors l'initiation, l'initiation, excuse.
pas de suite.
Je vais un petit peu vite en besogne, là, peut-être. Non d'ailleurs, bon, Jeannot, tu es le bienvenu. donc 17h, ouais. 17h, le vernissage, une visite rapide, le film La Séparation, on peut s'inscrire s'inscrire encore à la médiathèque, faut pas trop tarder parce qu'il y a que 120 places à l'auditorium. Voilà, ouais. Voilà, ça commence à charger un petit peu. Et puis derrière, il y aura un petit débat sur la laïcité, présentation donc du film avant par Alain Pécastin. Et ensuite, on a Frédéric Sanchis, notre conseiller de l'ordre, c'est-à-dire le représentant du Grand Orient de France ici pour notre région, qui sera présent et qui fera une planche de 10-15 minutes à peu près pour parler des grands combats du Grand Orient de France aujourd'hui. Mais il faut savoir que l'expo donc a lieu, elle est gratuite évidemment, et elle a lieu jusqu'au 27. Avec, chose importante, ça peut intéresser les auditeurs, il y aura deux visites guidées. Ah. Voilà, donc les deux samedis, le samedi, ça doit tomber le samedi 20, le samedi 20 à 11h ou à 10h, je ne sais plus, ça faut vérifier sur le site.
En matinée,
matinée, je crois que c'est 11h. Il y aura une visite guidée, il faut s'inscrire, c'est gratuit évidemment. Et également le samedi suivant, donc le 27, à 14h. Également une visite guidée. Donc là, ça peut être intéressant, parce que ça permet de poser des questions, ça permet de découvrir les panneaux, bon là, mais et également les objets qui sont en vitrine pour pouvoir expliquer toute la symbolique autour de notre institution.
Merci beaucoup, Éric Bugeaud, d'être venu nous éclairer un petit peu sur cette aventure de la franc-maçonnerie.
J'espère que je vous ai apporté un peu de lumière.
Mais oui.
En tout cas, merci à toi de m'avoir accueilli.
Avec grand plaisir. Et puis, on se fera un plaisir dans notre emploi du temps de venir faire un petit tour ce mardi du côté de la médiathèque Philippe Labeyrie.